Chapitre 40. Callan traversa le défilé avec les derniers soldats. Au-delà, sur toute sa moitié sud, la vallée était bien protégée par de hautes falaises. Si l'ordre tentait de poursuivre sa proie, un long et difficile chemin l'attendrait pour contourner les montagnes. Même si l'armée d'Aran n'avait aucune intention de se laisser piéger dans ce refuge, il était idéal dans un premier temps. Grâce aux épicéas qui poussaient au pied des falaises, parfois séparées par des brèches assez larges pour laisser passer le vent, la vallée offrait des conditions de vie plutôt confortables. Entre les tentes remontées à la hâte, de bons feux crépitaient, la preuve que les hommes se sentaient en sécurité car ils ne les auraient pas allumés sinon. De délicieuses odeurs de cuisine planaient dans l'air. Après avoir transporté des tonnes de matériel, les hommes mouraient de faim malgré l'heure tardive. Comme tout officier supérieur qui a cru un moment perdre son armée, puis la sait en sécurité, le général Meffert rayonnait. Souriant, il guida Callan et Kara jusqu'aux tentes qu'il avait préparées pour elles. En chemin, il leur raconta comment s'était déroulé le déménagement du camp et fit une liste rapide des rares équipements que les soldats avaient dû abandonner.
« Il fera très froid cette nuit, »
dit-il quand ils atteignirent les tentes dressées à l'écart entre deux grands arbres.
« J'ai fait préparer pour vous des bouillottes de campagne, des sacs épais remplis de cailloux chauffés sur un feu. »
Dès que Callan l'eut remercié, Meffert alla s'occuper des dizaines de tâches qui l'attendaient encore. Kara ayant envie de se mettre quelque chose sous la dent, Callan la laissa partir seule en quête de nourriture. Ne tenant plus debout, elle rêvait seulement de s'allonger. Sous sa tente, Bravour l'attendait. Trônant sur une petite table brillamment éclairée par la lampe accrochée à un des piquets. En passant, l'inquisitrice prit le temps de caresser du bout d'un doigt la robe de la statue. Claquant des dents, l'inquisitrice aurait voulu se glisser dans son lit avec la bouillotte du général Meffert, mais si elle mourait de froid, pensa-t-elle soudain, elle n'était sûrement pas la seule. Sortant de la tente, elle erra dans le camp jusqu'à ce qu'elle croise une sœur de la lumière qui lui donna les indications requises. Grâce à ces informations, elle trouva assez vite l'abri de fortune aménagé dans un entrelacs de broussailles censé couper un peu le vent et le froid. Elle s'agenouilla et balaya du regard les silhouettes enroulées dans des couvertures qu'elle distinguait vaguement grâce à la lumière des feux de camp. « Oli, tu es là ?» Une petite tête jaillit de sous une couverture.
« Mère inquisitrice ?»
La gamine tremblait de froid.
« Que se passe-t-il ? Vous avez besoin de moi ?»
« On peut le dire comme ça, oui. Lève-toi et suis-moi. » Quand la fillette eut obéi, Callan la prit par la main et la guida jusqu'à sa tente. Très impressionnée, Oli entra à petits pas et s'immobilisa, fascinée, dès qu'elle aperçut Bravour. « Elle te plaît ?» demanda Callan. Tremblant toujours de froid, l'enfant caressa délicatement le bras de la sculpture.
« Où avez-vous eu une merveille pareille ?»«
Richard l'a sculpté pour moi. »
« Il me manque, »
dit Oli. Elle détourna enfin les yeux de Bravour et chercha le regard de Callan.
« Il a toujours été gentil avec moi. Beaucoup de gens m'ont fait du mal, mais jamais lui. »
Callan eut un pincement au cœur. Elle n'avait pas prévu que l'enfant lui parlerait de son bien-aimé.
« Que me voulez-vous, mère inquisitrice ?»
Oubliant un instant sa tristesse, Callan sourit.
« Je suis très fière de ce que tu as fait aujourd'hui. »
« Tout à l'heure, je t'ai promis que tu dormirais au chaud cette nuit, et je tiendrai parole. »«
Vraiment ?»
Callan posa l'épée de vérité au bord du lit. Se débarrassant de son manteau et de sa cuirasse, elle éteignit la lampe, puis s'assit sur la confortable paillasse de campagne.
« Allez, viens te coucher avec moi. La nuit sera glaciale et j'ai besoin de toi pour me tenir chaud. »
Oli n'hésita pas longtemps. Callan s'allongea sur le côté, tira la petite contre elle, le dos bien calé au creux de son ventre, et lui glissa la bouillotte entre les bras. Gémissant de bonheur, Oli enlaça le sac de toile comme s'il s'agissait de la plus belle poupée du monde. L'inquisitrice sourit de la sentir si heureuse. Un long moment, elle savoura le bonheur de serrer contre elle une enfant endormie. Ce contact, elle le savait, l'aiderait à oublier les horreurs qu'elle avait vues aujourd'hui. Dans les montagnes, un loup solitaire lança un long appel modulé que l'écho répercuta à l'infini. L'épée de vérité plaquée contre son dos, Callan pensa à Richard. Et comme tous les soirs, elle s'endormit en pleurant.
Le lendemain, la neige descendit des montagnes pour s'attaquer aux régions les plus méridionales des contrées du milieu. Deux jours durant, une tempête fit rage dans la vallée. La deuxième nuit, Callan partagea sa tente avec Holly, Valérie et Hélène. Enroulées dans des couvertures, elles mangèrent le rata du camp, chantèrent des chansons, se racontèrent des histoires de princes charmants et dormirent blotties les unes contre les autres pour se tenir chaud. Quand la neige cessa de tomber, les hommes ensevelis sous leurs petites tentes de campagne émergèrent de nouveau à l'air libre, semblables à une colonie de marmottes sortant de leur tanière pour jeter un coup d'œil dehors. Les semaines suivantes, la couche de neige s'épaissit encore. Dans des conditions pareilles, se battre ou même déplacer une armée était impossible. Selon les éclaireurs, les forces de l'ordre impérial avaient sagement battu en retraite à une semaine de marche du site de l'ancien camp d'Aran. Bien entendu, les officiers avaient jugé inutile de s'occuper des aveugles. Dans un rayon de 3 lieues autour de l'endroit où le nuage de verre avait fait des ravages, les éclaireurs avaient dénombré plus de 60 000 cadavres gelés qui devaient être à présent ensevelis sous la neige. Sans ivoire et sans soutien, ces hommes n'avaient aucune chance de s'en tirer. Une centaine d'aveugles étaient parvenus à traverser le défilé pour implorer l'aide de leurs ennemis. Impitoyable, Callan avait ordonné qu'on les exécute. Estimer les ravages provoqués par l'arme diabolique de Verna était quasiment impossible. Combien d'hommes affectés avaient pu accompagner leurs camarades lors de la retraite? Sans doute un certain nombre, car on pourrait toujours les utiliser pour les corvées. Cela dit, les dépouilles repérées par les éclaireurs devaient représenter l'écrasante majorité des victimes du ver pilé. Avec son sens pratique, Jagang ne désirait sûrement pas avoir sur les bras des hordes d'infirmes, des bouches inutiles qui rappelleraient sans cesse aux soldats valides une cuisante défaite. La décision tactique de l'empereur ne devait pas être mal interprétée. Loin de renoncer à écraser les Darans, il avait simplement pris un peu de recul pour mieux se préparer à la bataille suivante. Avec les réserves dont disposait l'armée ennemie, quelques 100 000 hommes ne posaient pas un problème majeur, mais pour l'instant, les rigueurs du climat contraignaient Jagang à contenir sa fougue. Callan n'avait aucune intention de l'attendre en se tournant les pouces. Un mois après la bataille du Vert, comme on l'appelait désormais, quand une délégation d'Erbsborg arriva au camp, elle reçut immédiatement l'ambassadeur Thierot dans une cabane de trappeurs découverte par les éclaireurs dans une clairière à l'ouest de la vallée. À l'écart du camp, l'endroit était devenu le quartier général de l'inquisitrice et il servait aussi de poste de commandement. Le général Meffert avait été soulagé que Callan accepte de résider dans la cabane. Ainsi, il avait le sentiment que l'armée faisait de son mieux pour améliorer les conditions de vie de l'épouse du seigneur Hall. Kara et Callan appréciaient la petite bâtisse. Refusant de se comporter comme une privilégiée, l'inquisitrice n'y passait pas toutes ses nuits. Très souvent, elle y invitait les 3 petites filles et quelques sœurs de la lumière et allait se coucher sous une tente comme n'importe qui. Elle avait même réussi à persuader Verna, sans avoir à insister beaucoup, de dormir certains soirs avec Holly, Valérie et Hélène. Callan reçut donc l'ambassadeur Thierot dans son palais de campagne. Prudents, les membres de son escorte l'attendirent dehors, refusant l'hospitalité des Darans. Jusque-là, Erzborg, un minuscule pays, contribuait à l'effort de guerre en fournissant de la laine, sa seule marchandise exportable, à l'armée d'Aran, un produit dont nul n'avait prévu qu'il deviendrait essentiel. Quand il se fut agenouillé devant la mère inquisitrice, ainsi que le prescrivait le protocole, Thierot se releva, rabattit sa capuche et sourit. « Mère inquisitrice, je suis si content de vous voir. »« C'est réciproque, ambassadeur, mais venez donc vous asseoir avec moi près du feu. » Une fois installé, Thierot retira ses gants et se réchauffa les mains au-dessus des flammes. Déjà surpris de voir la garde de l'épée de vérité dépasser de l'épaule gauche de Callan, il ouvrit de grands yeux quand il aperçut Bravour, fièrement exhibé sur le manteau de la cheminée. « Nous avons entendu dire que le seigneur Rall était prisonnier, » déclara-t-il. « Vous avez du nouveau ?»«
Nous savons qu'il est indemne, mais c'est tout. Ambassadeur, mon mari est plein de ressources, je suis sûr qu'il reviendra bientôt parmi nous. »
Thierot acquiesça, mais il fronça les sourcils. Comme toujours quand on évoquait le seigneur Rall devant elle, Kara, debout près de la table, faisait nerveusement tourner son agiel entre ses doigts. À la lueur qui brillait dans les yeux bleus de la mort de Sith, Callan était certaine que l'arme, toujours liée au seigneur Rall, n'avait pas perdu son pouvoir. Tant qu'il en serait ainsi, les deux femmes seraient sûres que Richard était vivant.
À part ça, elle n'avait aucun moyen de savoir ce qu'il devenait.
« Et comment se passe la guerre ?»
demanda Thierrot en ouvrant son large manteau de voyage.
« Tout le monde attend anxieusement des nouvelles. »
« Selon nos estimations, nous avons tué plus de 100 000 soldats de l'ordre. » L'ambassadeur sursauta.
Quand on venait d'un pays microscopique, des chiffres pareils donnaient le tournis.
« Alors, l'ennemi est vaincu. A-t-il battu en retraite dans l'Ancien Monde ?»
Fuyant le regard de l'ambassadeur, Callan contempla les bûches qui se consumaient dans la cheminée.
« Hélas, ces pertes sont insignifiantes pour l'ordre impérial. » Quand on dispose d'un million de soldats, 10% de plus ou de moins se remarque à peine. L'armée ennemie campe au sud à une semaine de marche d'ici.
Callan sonda enfin le regard de l'ambassadeur. À l'évidence, il n'avait pas l'habitude de tels ordres de grandeur et il semblait désorienté.
« Par les esprits du bien !» soupira-t-il. « Nous avons entendu des rumeurs, mais découvrir que... Comment pourrions-nous venir à bout d'un adversaire pareil ?»«
Ambassadeur !» Je me souviens d'un incident il y a pas mal d'années. Vous étiez venu consulter le conseil en Aïdindril et, à la fin d'un banquet, vous avez eu des ennuis avec un Keltien dont j'ai oublié le nom. Ce colosse disait du mal de votre pays. Il vous a même lancé une insulte au visage. Vous vous souvenez? Que vous a-t-il dit au juste?
Ridicule nabo,
répondit Thierrot avec une lueur malicieuse dans les yeux.
C'est ça, ridicule nabo.
Parce qu'il faisait deux fois votre taille, il se croyait meilleur que vous. Je me rappelle la suite. Un bras de fer entre ce géant et vous. J'étais jeune à l'époque, et pour être franc, j'avais un peu trop arrosé le banquet. Mais vous avez gagné. Pas grâce à ma force. Ce type était trop prétentieux. Je me suis montré plus malin. Bref, meilleur tacticien, c'est tout. Mais vous avez gagné, c'est ce qui compte. Malgré leur supériorité numérique, ces 100 000 soldats sont raides morts, et pas nous.
Excellente démonstration, mère inquisitrice. L'ordre impérial devrait rentrer chez lui tant qu'il lui reste des hommes. Je me souviens des 5 000 bleus galéens que vous avez lancés contre 10 fois plus de soudards. Si je me souviens bien, il n'y a pas eu un survivant chez l'ennemi. J'ai compris votre message. Quand on se bat en infériorité numérique, il faut se fier à son intelligence.
Ambassadeur, j'ai besoin de votre aide,
dit abruptement Callan.
« Demandez, mère inquisitrice, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. »
Callan se pencha, prit une bûche et l'ajouta dans les flammes. « Il nous faut des manteaux de laine à capuche pour nos hommes.
Combien ? Dites-moi un chiffre et je m'arrangerai. »
« Au moins 100 000. Mais comme nous attendons des renforts, 150 000 me semble plus réaliste. »
Thierrot se plongea dans un exercice de calcul mental.
« Je sais que ce n'est pas facile, mais ne vous souciez pas de ça. » « Si je me lamentais, cela vous aiderait-il à vaincre ? Vous aurez vos manteaux, mère inquisitrice. Le reste nous regarde. »
La parole de Thierrot valait de l'or. Callan le savait. Elle se leva et le regarda droit dans les yeux.
« Ces manteaux devront être en laine décolorée. »«
Pourquoi donc, mère inquisitrice ?»«
Toujours cette affaire d'intelligence. L'ordre impérial vient de régions très loin au sud, où les hivers sont bien moins rigoureux que chez nous. »
Je le sais parce que Richard me l'a dit à son retour de Tanimura. Selon moi, ambassadeur, l'ordre n'a pas l'habitude du froid et encore moins de se battre dans des conditions pareilles. Un avantage pour nous, c'est incontestable.
Callan brandit le poing.
Je veux harceler ces brutes, ambassadeur. L'hiver m'aidera à les faire souffrir si je parviens à les attirer hors de leur tanière.
Et dans la neige, comment verront-ils des adversaires vêtus de manteaux à capuche blanc ? Nous attaquerons, sèmerons la mort, puis nous fondrons dans le paysage.
Nos ennemis n'ont pas d'unité magique ?
Hélas, si. Mais ils ne pourront pas poster une magicienne derrière chaque archer pour lui dire où viser.
Je vois, je vois. Mon peuple se mettra au travail dès mon retour. Je suppose que vos hommes ne cracheraient pas sur des mitaines bien chaudes.
Ils seront ravis, bien entendu. Encore une chose, ambassadeur. « Expédiez-nous les premiers manteaux dès qu'ils seront prêts, sans attendre d'avoir fini tout le lot. Dès que nous en aurons quelques milliers, les raids pourront commencer. »
Thierrot se leva, referma son manteau et remit sa capuche.
« L'hiver sera encore long. Plus vite vous en tirerez avantage, mieux ça vaudra. Je repars sur le champ. »
Callan serra la main de l'ambassadeur. Un comportement inhabituel pour la mère inquisitrice, mais normal pour n'importe qui d'autre quand il s'agissait de remercier quelqu'un. Alors que Kara et elle, campées sur le seuil de la cabane, regardaient l'ambassadeur s'éloigner avec son escorte, Callan se demanda quand arriveraient les premiers manteaux blancs. Serait-il aussi efficace qu'elle l'espérait?
« Vous pensez vraiment que nous pourrons tirer parti de l'hiver ?»
demanda la mort de Sith.
« Il le faudra bien, » répondit l'inquisitrice.
Elle allait faire volte-face pour entrer au chaud quand elle aperçut une étrange colonne qui avançait entre les arbres. Progressant à pied, le général Meffert précédait Adi, Warren, Verna et Zed. Quatre cavaliers les suivaient, le soleil de l'après-midi faisant briller la garde de l'épée du premier.
Callan poussa un petit cri quand elle le reconnut. Sans prendre le temps d'aller chercher sa cape ou son manteau de fourrure, elle courut accueillir ce visiteur, Kara sur les talons.
« Harold, nous sommes si contents de te voir !»
Le demi-frère de l'inquisitrice arrivait de Galéa. Quand elle identifia ses trois compagnons, Callan cria de nouveau, de plus en plus étonné. Il y avait là le capitaine Bradley Ryan, le chef des jeunes soldats galériens avec qui elle avait combattu, plus son second, le lieutenant Flynn Hobson et le sergent Frost. Souriante, Callan approcha d'Harold, brûlant d'envie de le serrer dans ses bras dès qu'il serait descendu de cheval. Dans son uniforme de campagne, beaucoup moins clinquant que sa tenue de parade, il était magnifique sur son superbe destrier. En le voyant, l'inquisitrice mesura à quel point elle s'inquiétait de son retard dans un coin de sa tête. Avec une dignité toute princière, Harold s'inclina sur sa selle, salua formellement sa demi-sœur et ne se permit que l'ombre d'un sourire.
« Mère inquisitrice, je suis soulagé de vous voir en si bonne forme. »
Contrairement à son chef, le capitaine Ryan souriait jusqu'aux oreilles. Callan gardait de lui et de Flynn un excellent souvenir. Deux hommes courageux et loyaux. Avec eux, elle avait mené une terrible bataille. Mais vivre et lutter en compagnie de pareils soldats avait été une des plus belles expériences de sa vie. Après avoir réussi l'impossible une fois, il venait ici pour réitérer cet exploit. Debout à côté de son cheval, Callan prit la main d'Harold. « Viens donc te réchauffer à l'intérieur, » dit-elle. « Un bon feu brûle dans la cheminée. Capitaine, lieutenant, sergent, vous êtes également mes invités. »
Elle se tourna vers Meffert et ses compagnons qui affichaient curieusement une mine sinistre.
« Venez aussi, il y a cette place. »«
Mère inquisitrice, je... »
commença Harold dès qu'il eut mis pied à terre. Ne pouvant plus résister, Callan enlaça son demi-frère. Un vrai colosse tout en muscles, comme leur père, le roi Wyborn.
« Harold, je suis si contente qu'il ne te soit rien arrivé. Comment va Syria ?»
Plus âgée d'une dizaine d'années que Callan, la pauvre Syria ne s'était jamais remise d'un séjour dans une oubliette en compagnie d'une bande d'assassins et de violeurs. Harold l'avait tirée de là, mais sa raison n'avait pas résisté au traumatisme. La plupart du temps perdue dans ses cauchemars intérieurs, elle avait de rares moments de lucidité, si l'on pouvait nommer ainsi des crises de terreur incontrôlables. Un jour, alors qu'elle était presque normale, elle avait fait jurer à Callan de porter la couronne de Galéa et de prendre soin de son peuple. Militaire de carrière, Harold ne voulait pas du pouvoir. À contre-cœur, la jeune femme avait accepté cette responsabilité supplémentaire.
« Mère inquisitrice, » dit le prince, « nous devons parler. »